toutes et à tous. Et si on portait moins de fringues ? Ceci n'est pas un appel à devenir nudiste, quoique en période de réchauffement climatique c'est peut-être l'avenir, mais simplement à se poser la question, en se plantant devant notre armoire, de quels vêtements ai-je vraiment besoin et de quelle quantité ai-je besoin pour vivre décemment ? Parce qu'on le sait tous, notre planète déborde de vêtements. Et cette surcharge a évidemment des conséquences environnementales, bien sûr, mais aussi économiques et sociales. Le textile, mot valise, qui inclut une multitude de matières plus ou moins faciles à recycler, est une industrie qui représente 1000 milliards de chiffres d'affaires et est devenue un secteur en roue libre, impossible à réguler ou presque. Pour y voir plus clair sur le sujet de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, on fait le tri avec nos invités. Bienvenue dans la lorgnette. Et bienvenue donc à nos invités, représentants de la régie de quartier de Vendôme. Bonjour à vous deux, vous allez pouvoir vous représenter.
Sandrine Bernard, du coup chargée de lien social, événementiel et communication à la régie de quartier de Vendôme.
Et Charles Lavarenne, directeur de la régie de quartier depuis 5 ans.
On vous avait reçu dans La Chose Commune, notre magazine centré sur, on va dire, le développement durable et les initiatives locales pour parler de vos activités de manière générale. C'est à l'issue de cette rencontre qu'on s'est dit que vous avoir pour parler de la fast fashion, ça semblait pertinent puisque, bien donc, vous le mentionnez dans La Chose Commune, mais l'aspect vestimentaire représente une part non négligeable de votre travail au sein de la régie de quartier. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui... Alors, on renvoie évidemment vers le podcast de la Chose Commune, mais pour ceux qui voudraient avoir de nouveau ou avoir pour la première fois un aperçu de ce que vous faites sur cette question de la fast fashion, ça me paraît important.
Sur la ressource au risque, on peut déjà dire c'est que c'est 50% du chiffre d'affaires du magasin, des magasins maintenant, puisqu'on en a un nouveau depuis 6 mois, 8 mois maintenant, juin 2025, on l'a ouvert. Donc 50% du chiffre d'affaires de la ressourcerie où on vend pas que du textile, mais aussi des objets, des jeux, des appareils électriques et électroniques, des meubles.
Très bien, merci pour cette présentation. Merci également à Mathilde d'être avec moi pour présenter cette émission. Salut Mathilde.
Salut Thomas.
On va donc se replonger dans ces montagnes de fringues qui jonchent à la fois nos armoires et vos réserves de tri au sein de la régie de quartier. Je crois que c'est valable pour l'ensemble des régies de quartier, des ressourceries de France et de Navarre, comme on dit. Est-ce qu'on peut refaire donc un petit point ? Alors moi, Mathilde, je ne sais pas comment tu as travaillé aussi sur le sujet, j'avais un chiffre qui parlait de 3,5 milliards de vêtements achetés en France en 2024, ce qui fait à peu près 10 millions par jour, donc c'est quand même énorme. On n'est que 65 ou 68 millions de Français et tout le monde n'a pas les moyens de les acheter, on rappelle aussi. 300 000 tonnes récoltées par an, avec une filière qui est en saturation, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez donner, vous aussi, quelques chiffres à votre échelle qui nous permettraient d'y voir un peu plus clair à l'échelle locale, on va dire.
Déjà, effectivement, oui, 3,5 milliards de textiles vendus, alors 9 vendus chaque année en France.
C'est bien de le préciser.
Ça représente 48 vêtements par habitant par an. Voilà, alors, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au-delà de ce qui est vendu, il y a ce qui est produit avant tout. Et là, en production, on a 100 milliards de vêtements qui sont produits dans le monde chaque année. Donc c'est le double d'il y a 20 ans. Donc l'augmentation, elle est assez incroyable. Mais ces chiffres-là, ils ont été produits en 2014. Et ils sont valables sur la période de 2020 à 2014. Et en fait, ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que depuis, le phénomène s'est vraiment accéléré. Parce qu'à l'époque, on parlait déjà de fast fashion. Et puis là, tout à l'heure, on y viendra, on va parler d'ultra fast fashion. Donc on n'a pas encore de chiffres vraiment stables sur les périodes très récentes.
Mais on sait que ça a augmenté.
Mais oui, ça et puis...
Et ça a fortement augmenté.
Oui. Okay. C'est un phénomène qui est exponentiel, il s'accélère vraiment d'année en année.
Est-ce que vous êtes en capacité de décrire le chemin d'un vêtement jeté qui sort d'une armoire d'un individu, d'un homme ou d'une femme, qui va le mettre dans ses boîtes blanches de tri, et à partir de là, les personnes ne s'intéressent pas forcément à ce que ce sac de vêtements, ces vêtements vont devenir. Ils pensent peut-être faire une bonne action, mais la réalité est un peu plus complexe que ça. On pourrait avoir un peu travaillé le sujet, mais vous allez nous éclairer.
Oui, alors d'abord les vêtements ils sont déposés dans les fameuses boîtes ou directement dans les zones d'apport volontaire des ressourceries.
On peut aussi les amener directement aux ressourceries.
Oui, oui, oui. Il y en a qui y tiennent parce qu'ils veulent que leurs vêtements passent l'accès du tri et arrivent jusque dans le magasin pour resservir.
Ouais.
Parfois ça nous arrive plié, repassé, ça
propre.
Sent bon, ouais, voilà. Donc ces vêtements-là, donc, ils sont vérifiés, hein, on vérifie qu'il n'y a pas de trous, pas de taches et que c'est en bon état, hein, d'une manière générale. Et quelle que soit l'économie dont sort ce vêtement, que ce soit une fast fashion, ultra fast fashion ou un vêtement produit de manière éco-responsable, il arrive quand même sur le magasin et du coup c'est un total de 47 000 articles textiles cette année qu'on a pu vendre. Et, mais ça représente qu'un certain pourcentage de notre collecte, hein, on collecte 110 tonnes en 2025 de vêtements. On ne peut pas tout trier, donc tout ce qui n'est pas vendu dans nos ressourceries est vendu à des professionnels du textile aussi, qui eux-mêmes, de manière professionnelle, trient et revendent à d'autres structures, hein. Ça peut être des ressourceries parisiennes ou des friperies, comme on dit, où les vêtements sont achetés parfois et revendus par catégorie. Vous pouvez avoir une friperie qui va revendre que du vintage et qui va acheter à ses gros professionnels des cartons de vêtements vintage, par exemple. C'est pour ne citer que cet exemple-là.
Donc on voit le système de ricochet, en fait, qui impacte tous les endroits de la filière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas systématiquement, en tout cas, le dernier endroit où le vêtement atterrit. Il peut atterrir chez vous, mais rebondir à un, deux, voire peut-être plus que ça, d'endroits derrière vous, en fait.
Effectivement, parce que du coup, Sandrine a beaucoup parlé de la revente, mais ces vêtements, ils peuvent être aussi donnés. Nous, on collecte et on donne pour une vingtaine d'associations. Alors, il y en a plein. Hein. Et l'idée, c'est que tous les vêtements qui arrivent chez nous, enfin tous les objets même au sens large, ils aient une seconde vie, quelle qu'elle soit. Donc effectivement, idéalement, la revente dans nos boutiques pour pouvoir servir pour les habitants du territoire, mais si jamais on estime que le vêtement il est pas conforme à ce qu'on attend dans nos boutiques, il peut être aussi proposé à d'autres. Alors y compris par exemple une vieille couverture qui peut servir à la SPA pour les chenilles, pareil pour des peluches abîmées, c'est pareil, on les donne aussi à la SPA et puis on va alimenter aussi les boutiques de nos copains, de nos partenaires. Voilà, les restos du cœur,
le Secours Populaire,
et ainsi de suite. Ouais.
D'ailleurs, j'y pensais pendant que vous parliez, il y a aussi des gens qui amènent directement à ces endroits-là, au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Donc effectivement, vous n'êtes pas non plus un organe centralisateur. On voit qu'il n'y a, y a pas de règles concrètes de la filière du recyclage et de la réutilisation du vestimentaire, du secteur textile. Parce que effectivement, des fois on se dit « Ah bah oui, mes vêtements pour enfants peut-être notamment, plutôt je vais les donner au Secours Populaire, etc. » Et les vêtements adultes peut-être plus arrivent chez vous. Est-ce que vous avez aussi tout genre de choses? Il n'y a pas que des vêtements adultes, ou il y a plus de vêtements adultes, plus de vêtements enfants? Comment ça se passe? On sait que autant le vêtement adulte peut avoir peut-être plus de vie, en tout cas on peut traîner nous nos vêtements adultes plus longtemps. Les vêtements enfants, quand un enfant rentre plus dans du 6 ans, il rentre plus dans du 6 ans.
Alors, il y a un phénomène, c'est juste la vie qui fait ça. Ouais. Les petits, les vêtements changent de taille très, très vite. Ouais. Donc, évidemment, on a énormément de
Et donc, de vêtements plus neufs bébés. Que peut-être des vêtements adultes.
Oui, ouais. Oui, oui. Mmh. Donc, souvent de bonne qualité, hein, mais en surnombre. Chez les hommes, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que les hommes font quand même beaucoup moins de shopping que les femmes. Mmh. Ils gardent leurs vêtements aussi sûrement beaucoup plus longtemps. On en a beaucoup moins.
Donc un stock de vêtements hommes qui est moins...
Très léger par rapport au stock femmes adultes. La quantité qu'il peut y avoir pour les vêtements de femmes.
Et notamment les vêtements de femmes été, là on en a en surnombre, les petites robes de l'été, là, qui, de par les effets de mode, vont durer juste une saison et être portées que quelques fois. Parce qu'après, les marques ont décidé de changer de couleur ou de motif.
Et ça, vous le constatez
aussi.
Ça,
on en a
aussi,
en quantité astronomique. Ouais.
Au niveau des critères de tri, est-ce qu'ils ont été modifiés justement avec cet essor de la fast fashion et de l'ultra fast fashion? Et est-ce que vous faites la différence lorsque vous examinez des vêtements entre un vêtement, par exemple, Zara fast fashion et Shein ultra fast fashion?
Alors, pas nécessairement, c'est-à-dire que nous, on va essayer de proposer aux usagers de la ressourcerie, enfin de nos magasins, des vêtements qui sont en bon état, quels qu'ils soient. Et effectivement, il peut y avoir des vêtements issus de l'ultra fast fashion, comme des marques standards. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le vêtement, il soit propre, il soit pas délavé, pas taché, pas déchiré, sans trous, enfin, et qu'il corresponde un petit peu aux attentes aussi des usagers. Hein, alors, les attentes des usagers peuvent être très variés pour le coup. Hein. On a, nous, dans nos publics, un melting pot de personnes. Il peut y avoir des jeunes qui ont envie justement d'avoir des vêtements vintage très atypiques. Donc il y a des vêtements, a priori, quand ils arrivent sur la table de tri, moi personnellement, j'aurais pas misé dessus du tout, quoi. Mais au contraire, c'est ceux qui vont partir le plus facilement avec un jeune de 20 ans, par exemple. Mais on a aussi des personnes, on a des chineurs, des collectionneurs qui vont vouloir regarder quelques marques de couturiers. On a aussi des primo-arrivants qui ont besoin de s'habiller parce qu'ils sont arrivés en France avec seulement un sac plastique dans la main. On a vraiment aussi des personnes qui viennent là uniquement par philosophie, hein, qui sont que sur qui n'achèteront plus du neuf parce que ça ne correspond plus à leurs attentes de consommateurs. Voilà, et en fait, ce qui est assez rigolo d'ailleurs dans nos magasins, c'est qu'on a un mélange, on brasse vraiment tout type de population, et il y a peu d'endroits finalement où on a ce melting pot aussi important. Peut-être une halle de gare, pourquoi pas, mais autrement, on a...
C'est un vrai lieu de mixité sociale,
exactement.
Les ressourceries comme les vôtres. Oui, on le comprend effectivement que ça peut brasser effectivement des gens très, très divers, des gens qui ont les moyens et d'autres qui ne l'ont pas pour différentes raisons. Vous en parliez tout à l'heure en introduction des chiffres notamment qui ont dû augmenter. Quelles sont les différences au-delà de la quantité reçue qui nous permet d'arriver sur vraiment le thème pour lequel on vous a invité de la fast fashion et de l'ultra fast fashion? Quelle est la différence majeure en termes de qualité que vous avez constaté depuis que vous êtes tous les deux sur vos postes à la régie de quartier? Est-ce qu'il y a une vraie dégradation des matières, des qualités textiles qui permet ou pas d'être vendu, d'être réemployé?
Alors je vais faire une réponse en demi-teinte. Allez. Parce que oui et non en fait.
Ouais.
Oui, effectivement, la fast fashion, parce qu'elle existe depuis les années 90-2000, elle a pris beaucoup de place et une proportion importante dans la consommation de vêtements en général.
Avec le commerce en ligne,
voilà,
notamment.
Mais même, parce que quand on parle de fast fashion, on parle aussi de
Zara,
de
H&M,
qui existe depuis les années 90.
Ouais, tout à fait.
L'ultra fast fashion n'est arrivée que plus récemment. Donc c'est effectivement... une part importante de ce qu'on vend, mais pour la bonne et simple raison que c'est une part importante de ce que les gens consomment.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de gens qui aujourd'hui ont les sous pour s'acheter un pull à 150 € ou... Enfin, voilà.
Bien sûr, oui.
Pour donner que cet exemple-là. Du coup, par voie de conséquence, les vêtements qui nous arrivent sont aussi issus de la fast fashion, ultra fast fashion, arrivent en magasin et sont pour autant en bon état.
Ouais.
Sur l'atelier de sensibilisation qu'on a mené fin octobre, il y avait 76% des vêtements sur 80 kilos qui étaient issus de la fast et de l'ultra fast fashion. Pas forcément l'ultra fast fashion en surnombre, mais la globalité des deux, oui.
Donc effectivement, j'achète plus de vêtements qui arrivent de H&M, de Zara, de ces vendeurs à premier prix. Et donc une fois que leur saisonnalité, pour en revenir aussi à des effets de mode, est passée, ils vous reviennent sur la même façon que des vêtements beaucoup plus chers en fait. C'est juste que la quantité, encore une fois, cette question de quantité, est plus importante puisqu'ils sont plus faciles d'accès et moins chers à l'achat.
Okay. Mais sur la qualité, il y a quand même... la fast fashion, c'est un tiers de la durée de vie du produit en moins, donc il y a quand même une petite différence quand même de qualité. Alors après, là où on va vraiment voir un gap important sur la qualité, c'est l'ultra fast fashion. Là, on a des vêtements qui en fait se délitent très rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 lavages, en fait, les fibres se décomposent et voilà, les coutures ne tiennent pas aussi parce qu'elles ont été faites avec le plus petit fil possible qui soit, enfin, toutes petites économies possibles. Et ces vêtements-là, pour le coup, ils vont pas pouvoir toujours être mis en magasin parce que en fait, on les aura mis de côté parce que les coutures auront été déchirées et ainsi de suite. Et ça nous pose un problème aussi dans les filières de réemploi parce que on a parlé de la revente, mais aussi on a des acheteurs qui nous récupèrent les vêtements pour les matières et qui vont le transformer en isolant phonique, par exemple. Et là, quand ces matières-là, coton, elles se dégradent, elles se délitent complètement, elles bourrent les machines. Donc même eux sont embêtés pour pouvoir, y compris faire du recyclage en isolant phonique parce que du coup la matière va complètement coincer les organes de la machine et empêcher la filière de pouvoir produire.
C'est même pas d'assez bonne qualité pour produire des choses pour être réemployé.
Moi j'ai une question du coup sur la vie économique des ressourceries. puisque en parlant justement de ces vêtements invendables ou qu'on ne puisse pas réutiliser, c'est-à-dire qu'ils finissent en déchetterie. En même temps, on parle de cette augmentation de la quantité, donc besoin de masse salariale. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a besoin de masse salariale et que les dépenses augmentent ? Quelle est la situation aujourd'hui ?
Alors, elle se complique effectivement. Alors, nous, sur la régie de quartier de Vendôme, on a de la chance. On a de la chance parce que la ressourcerie, c'est d'ailleurs la plus vieille de la région centre. Elle a été créée maintenant il y a 14 ans. Et elle a été créée à l'initiative aussi de notre syndicat de gestion des déchets, Valdem, sur notre territoire.
Sur le territoire de Vendôme.
Qui avait envie, du coup, de pouvoir sortir des bennes des déchetteries des choses qui pouvaient être potentiellement réutilisables.
Donc, ils ont fait ça pas que pour les vêtements, j'imagine.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. Et donc, à partir de là, en fait, ils ont imaginé pouvoir déléguer le réemploi à une structure. C'est nous qui avons été choisis. On a été choisis parce qu'on était déjà friperie depuis une bonne vingtaine d'années. Mm-hmm. Et donc là, on a élargi le spectre à tout type d'objets. Mais si je parle de cette initiative de Valdem, c'est parce que du coup, tout ce qui arrive chez nous nous est rémunéré par la collectivité. Parce que du coup, ça fait aussi des économies à la collectivité. Toutes les tonnes que nous, on récupère, c'est des tonnes en moins à gérer.
À ne pas traiter, oui.
Voilà. Et là-dessus, on est gagnant-gagnant, puisque ce qu'on récupère, nous, eux, ils n'ont pas du tout à le traiter. On sait, par exemple, que sur le Vendômois, les calculs qu'on a faits, c'est qu'une tonne de déchets, qu'ils soient enfouis ou incinérés, à traiter en déchetterie, c'est 260 euros de gestion. Donc, c'est un chiffre. Donc, quand ça arrive chez nous, déjà, il y a cette économie
pour la collectivité. Plusieurs kilos en moins, voire dizaines de kilos en moins.
Et alors pour en revenir du coup effectivement à cette difficulté économique que peuvent rencontrer les structures, effectivement avant on avait des tissus de qualité, des textiles de qualité dont beaucoup pouvaient être réemployés, donc on avait peu de tri à faire, on avait aussi peu de mètres carrés obligatoires pour pouvoir gérer tous ces stocks. Et aujourd'hui, ça se complique pour ces deux bonnes raisons-là. C'est-à-dire qu'on a des quantités énormes qui nous arrivent dans les mains. Ces quantités, il faut pouvoir les stocker. Donc le stockage, c'est des mètres carrés d'entrepôt et ça coûte cher aussi. Et après, pour pouvoir retrouver un vêtement de qualité parmi la masse qui nous est donnée, c'est beaucoup plus de temps. Puisque du coup, avant, on pouvait considérer qu'il y avait un vêtement sur deux qui était réemployable. Aujourd'hui, des fois, c'est un dans un sac entier. Un seul dans un sac entier. Donc du coup... Ça demande effectivement d'avoir plus de salariés. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ce qui n'est pas utilisé ? Pendant longtemps, en fait, effectivement, Sandrine le disait, ça pouvait être vendu à des fripiers. Mais aujourd'hui, les fripiers, ils ont une telle possibilité de récupération qu'il faudrait leur donner gratuitement et voire même des fois payer pour l'enlèvement. Parce que du coup, ça leur coûte cher aussi, eux, de venir avec une benne et puis de faire l'enlèvement. Et ça, en fait, cette petite rémunération qu'on pouvait avoir par avant, on ne l'a plus actuellement. Donc voilà. Et sachant qu'avec l'Ultra Fast Fashion, on peut trouver aussi en ligne des vêtements neufs à des tout, tout petits prix, à des prix qui sont identiques, voire des fois moindres que ce qu'on peut trouver en ressourcerie, les gens, ça ne les invite pas non plus à mettre de l'argent dans du textile de seconde main.
Hein. Moi, je ne me figurais pas, mais puisque j'achète peu de vêtements, globalement, je suis rarement le cœur de cible de ces sites de vêtements, mais je me figurais pas que vous pouviez maintenant désormais être en concurrence avec des plateformes d'ultra fast fashion, c'est-à-dire que vos prix sont à minima, au mieux, alignés sur les prix qu'on peut trouver sur Shein, pour citer l'ogre dans la pièce.
Sachant que nous, en plus, on est une structure associative à but non lucratif.
Bien sûr,
nous,
ouais,
l'argent qu'on fait grâce à la vente, il resserre le territoire, il est là, il n'est pas pour enrichir des actionnaires. Voilà. Mais là, aujourd'hui, nous, on est à 50 mètres du Leclerc. À Leclerc, voilà. On peut trouver une paire de chaussures à 6 euros, on peut trouver un jean aussi dans ces eaux-là et un
t-shirt à 1,50 €. Voilà. Ils font partie aussi du problème.
Ouais. Il n'y a pas que les grandes plateformes.
Non.
Ok, ça marche.
Juste quand même sur les grandes plateformes, depuis quelques années, il y a une nouvelle forme de marketing qui a été mise en place, c'est le fait de proposer des bons d'achat quand on redonne soi-même un vêtement porté à la marque. Est-ce qu'il y a un peu quand même cette idée de concurrence déloyale où du coup les vêtements vont pas revenir à la ressourcerie et en même temps ça continue à surconsommation?
Moi en fait que les grandes marques comme Decathlon, qui habillent autres décident de faire du réemploi, ça me dérange pas en soi, tant mieux, hein. Nous on est là pour dans cet objectif là, hein. Si les vêtements ils pouvaient tous réemployer et utiliser vraiment jusqu'à l'usure complète, ça m'irait bien. Le problème c'est que quand on donne pour pouvoir avoir des bons d'achat et racheter du neuf, en fait on rentre dans un cycle de consommation qui fait que il y a de la production derrière, voilà, et la production c'est des quantités d'eau astronomiques pour pouvoir produire les vêtements, c'est aussi des gens qui sont complètement sous-payés et qui travaillent dans des conditions vraiment atroces à l'autre bout du monde, et ainsi de suite. Et puis le problème que j'y vois, c'est que les vêtements qui sont récupérés par ces enseignes, ils sont pas réemployés, ils partent à la destruction, et donc finalement on le sait qu'au trop peu, ou alors des fois ils cherchent à mettre en place des petits magasins à côté, mais c'est à la marge. Donc malheureusement, c'est pas du réemploi, c'est on récupère pour inciter les gens à re-remplir à nouveau leurs armoires.
Eh bien, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après pour continuer à parler de ce sujet de la fast fashion avec nos invités de la régie de quartier de Vendôme. À tout de suite.
Clap, prise 1, vision panoramique. Caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font 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 les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne, quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tac, tic, attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui bite. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Jimmy J.
Voilà pour ce morceau encore d'actualité, même si les textes de MC Solar, vous l'aurez reconnu, extrait de l'album Qui sème le vent récolte le tempo de 91, reste d'actualité. C'était sur la perte de poids pour ressembler à des mannequins, mais l'injonction et la critique du paraître restent toujours d'actualité avec ce morceau. C'était Victime de la mode. On est toujours en studio avec Sandrine Bernard et Charles Lavarenne de la régie de quartier de Vendôme pour parler de la fast fashion et de l'ultra fast fashion qui empile des montagnes et des montagnes de vêtements dans les centres centres de tri et les relais de vêtements. Je voudrais justement avec vous qu'on parle de cette grève historique qui a eu lieu l'année dernière auprès du relais, donc les relais qui gèrent ces fameuses boîtes blanches dans lesquelles on dépose nos vêtements. Quelles sont les raisons qui ont porté cette grève et quels ont été éventuellement les impacts que vous avez pu percevoir sur votre activité?
Alors en fait, l'an passé, il y a eu un phénomène mondial autour de la surproduction de textiles qui fait que du coup, les filières d'évacuation de nos textiles en Europe qui jusque-là se posaient beaucoup en Afrique aussi, donc on envoie des containers entiers en Afrique pour qu'eux ils puissent aussi après choisir et s'habiller. Malheureusement aussi dans ce que l'on envoie, il n'y a pas toujours que de la bonne qualité et du coup, vous connaissez les images autant que nous, il y a des montagnes entières de textiles qui s'accumulent aussi des fois même sur les plages. Ce qui s'est passé, c'est que du coup aujourd'hui, comme les Chinois produisent des quantités tellement importantes de vêtements, ils n'arrivent pas toujours tous à les revendre. Et donc ils envoient aussi leur surproduction en Afrique. Donc les Africains ont deux choix, soit ils prennent un conteneur d'Europe avec des vêtements de seconde main, soit ils récupèrent directement des conteneurs de vêtements neufs issus de la surproduction de Chine. Et après, ils ont des droits de consommateur comme tout un chacun. Et effectivement, des fois, entre un vêtement neuf et un vêtement qui a déjà été porté plusieurs fois...
Le choix est vite fait. Ouais. Et donc ici en France, cette grève du relais, est-ce qu'elle a eu un impact pour vous, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux de tri?
Alors, c'est pas la grève du relais qui nous a le plus impacté.
D'accord.
C'est le fait de ne plus pouvoir évacuer nos propres textiles. Les usines de traitement, elles étaient toutes en surcharge. Donc, elles ont décidé d'arrêter de prendre. Et à ce moment-là, nous, on s'est retrouvés, mais comme le relais, avec des montagnes qui s'accumulaient et a pu savoir quoi faire de tout ça. Et donc, du coup, à un moment, nous, la régie de quartier, on avait, je ne sais plus combien, c'était à peu près 40 tonnes là, de textiles, donc on ne savait pas quoi faire. Ça représentait une très, très belle montagne sur laquelle on pouvait même skier.
Ça doit monter haut, une montagne, 40 tonnes de vêtements dans vos locaux, dans vos hangars. Ouais.
C'est assez impressionnant. Et donc, la situation, on n'en est pas complètement sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à avoir des tonnes dont on ne sait toujours pas quoi faire et qui nous encombrent et qui mangent nos mètres carrés utiles pour le tri, la réparation et autres. Pour bien se rendre compte, il faut quand même donner quelques chiffres sur l'ultra fast fashion. Shein, aujourd'hui, c'est 7200 nouveaux modèles par jour. C'est 470 000 modèles différents qui sont disponibles en temps réel sur leur site. Donc c'est colossal. Personne ne peut lutter contre des telles quantités, des tels choix en fait. L'ultra fast fashion aujourd'hui, c'est 30% des quantités de vêtements qui sont vendues en France. Et ça touche vraiment toutes les catégories confondues. Enfin, peu importe son pouvoir d'achat. 70% des Français se déclarent avoir déjà consommé de la fast fashion. Et 75% des consommateurs qui sont au-dessus de 2 500 € de salaire mensuel net ont déjà aussi acheté en ligne sur ces plateformes-là.
Donc c'est pareil, ça touche, comme la fréquentation de vos boutiques, toutes les classes sociales achètent aussi sur Chine, etc., Primark, tout ça.
Mais du coup, les chiffres, ils sont colossaux. Le Temus, c'est 18,4 millions de visiteurs uniques mensuels. Donc c'est en France. Hein. Donc c'est un quart de la population française qui va régulièrement sur Temu chaque mois. Et aujourd'hui, il y a un quart des colis de la Poste qui, du coup, sont issus de ces deux magasins, Shein et Temu. Alors, on parle souvent d'eux, effectivement, mais il n'y a pas que. Hein, derrière, on a des plus petits aussi. Donc, ça fait des quantités colossales. Et du coup, on estime que l'industrie de textile française, elle est en train d'être mise complètement à mal. Depuis les années 90, on estime qu'il y a à peu près 300 000 emplois qui ont disparu dans l'industrie du textile en France. Donc, c'est les trois quarts des emplois du secteur. Donc, parce que les gens vont plus consommer dans les boutiques. Voilà, on a bien vu hein, tous hein, la disparition des marques. Il hein, y a eu Pimki, Naf-Naf, il y a eu Camailleux, Go Sport, Jennifer. Alors Jennifer, c'était une marque quand même qui avait 40 ans d'ancienneté. Hein. Il y a eu Eram aussi plus récemment. Enfin voilà, le rouleau compresseur chinois est en train de passer voilà, et tout le monde est en train de baisser le rideau. Hein. Il y a 3000 boutiques qui ont fermé là, dans les 5 dernières années. Et on le voit sur les centres-villes de toutes les villes. Alors à Blois, mais à Vendôme aussi. Alors à Vendôme, on est encore relativement préservé. On a 8,8% de vacances commerciales dans le centre-ville.
C'est moins que la moyenne nationale.
Voilà, c'est moins, parce que la moyenne, effectivement, elle est de 13,4%, mais 8%, ça reste énorme.
Oui, ça fait quand même des boutiques vides, visibles, quand on se balade, notamment à Vendôme. Vous parliez de l'emploi. Charles, on va en parler avec la recommandation de la semaine, Mathilde.
Oui, c'est un extrait du documentaire « Ce que Shane ne veut pas que vous voyez » réalisé par Claire Latou pour France TV et qui est disponible sur YouTube.
On écoute donc cet extrait.
Les vêtements vendus par la marque sont-ils fabriqués dans de bonnes conditions? J'ai demandé à Shane s'ils pouvaient me montrer leurs usines. Ils ne m'ont jamais répondu. Mais en creusant, je tombe sur le rapport d'une ONG suisse, Publicaille. Le titre est cash, trimé pour Chine. J'appelle la porte-parole de cette ONG, Géraldine Viré. Bonjour Géraldine.
Salut Claire.
Je me pose pas mal de questions sur les conditions de travail des ouvriers qui travaillent pour la marque Shein en Chine. Est-ce que tu penses que c'est un peu ambitieux de vouloir en interviewer un ou ça te paraît faisable?
Écoute, je pense que c'est pas impossible, mais c'est difficile. Depuis notre enquête, on sait qu'ils ont donné des consignes assez fortes au personnel pour plus parler avec les médias, encore moins étrangers. Pas impossible, mais difficile, disons.
Les prédictions de Géraldine se confirment. Pas facile de convaincre un journaliste sur place. Au bout de quelques jours, je finis par trouver un caméraman chinois. Il est prêt à se rendre dans la région de Canton, le fief de Chine. Ici, tout tourne autour du textile. On cherche des coupeurs, des repasseurs et des modélistes. La rue sert de bureau de recrutement, avec des ouvriers qui vendent en direct leur force de travail et des patrons qui cherchent des bras. Shein fait fabriquer ses vêtements par des milliers de petits ateliers. La marque n'a jamais laissé une caméra filmer ses sous-traitants. Par la suite, les chargés de communication de Shein insisteront pour savoir où nous avons tourné. Ce que j'ai bien sûr refusé de dévoiler. Ces images sont rares. Géraldine est impatiente de les découvrir avec moi.
Là, on voit plein de petits ateliers. On dirait bien le S de Chine. Ouais. On dirait un cornet Chine.
Ouais, clairement, c'est un sac Chine, ça se voit direct.
C'est toute une zone dans laquelle Chine est très, très implantée. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de petits fournisseurs qui travaillent exclusivement ou quasi exclusivement pour Chine.
Dans un de ces ateliers, un ouvrier accepte enfin de nous parler. Pour sa sécurité, nous floutons son visage et modifions sa voix.
Vous confectionnez combien de vêtements par jour?
À peu près 1000.
1000 vêtements? Vous devez avoir beaucoup d'expérience.
Ouais, ça fait pas mal d'années que je fais ça, c'est vrai.
Le vêtement que vous êtes en train de faire, c'est pour quelle marque, vous le savez?
C'est pour Shein. On est tous payés à la pièce.
Ah ok, mais combien par pièce? Par exemple, pour ce vêtement-là, c'est une robe?
Non, c'est un pantalon.
Shein, ils vont vous payer combien pour ce pantalon?
Environ 3 yuan.
Ouais, 3 yuan par pièce, ça fait 39 centimes d'euros. On voit que c'est vraiment très très bas.
Vous gagnez combien par mois?
Quand je travaille beaucoup, je peux gagner jusqu'à 1000 euros.
On pousse les gens quelque part à travailler comme des robots pour parvenir à gagner un salaire décent. Ça peut aller jusqu'à 10 000 yuan, ça fait, je crois, 1 200 euros, quelque chose comme ça. Et sur le papier, pour la Chine, c'est un salaire qui est assez bon, en fait.
Ouais.
Mais ce qu'on voit, c'est que pour gagner ce salaire-là, ces gens-là vont devoir travailler 75, voire 80 heures par semaine.
À quelle heure vous prenez votre pause aujourd'hui ?
À midi.
Est-ce que je peux vous interviewer seul à seul à ce moment-là ?
Ouais.
Pour discuter au calme, mieux vaut quitter l'atelier. Direction un petit restaurant du quartier.
Est-ce que vous avez des enfants ?
Oui.
Combien ?
J'en ai deux.
Et est-ce que votre femme et vos enfants vivent ici avec vous ?
Non, ils sont dans ma ville natale, à plus de 1000 kilomètres.
On est dans des problématiques, des situations qu'on avait déjà observées en 2021. Le fait qu'il ait laissé ses enfants, le fait qu'ils doivent trimer énormément d'heures, qu'il n'ait pas de contrat de travail, la rémunération à la pièce. C'est évident que quand tu t'achètes un top à 8 euros, il n'y a aucun monde dans lequel ce vêtement-là a été fabriqué dans de bonnes conditions au niveau social. Et ça, je pense que c'est important aussi de sensibiliser, en priorité les jeunes, parce que c'est la cible marketing principale de marques comme Shein. Ouais. Et je trouve aussi que c'est essentiel que les influenceurs, influenceuses, en fait, qui prennent conscience de ça, prennent la parole sur ces aspects. Je trouve ça essentiel.
Voilà, merci pour cet extrait de ce reportage. Mathilde, tu nous représentes. Où est-ce qu'on peut le trouver ? On le mettra évidemment en lien dans notre podcast sur cette émission.
Oui, c'est le reportage que Chine ne veut pas que vous voyez qui est disponible sur YouTube. C'est un reportage pour France Télévisions.
Merci. Bon, j'imagine qu'on ne vous apprend rien, Charles et Sandrine, avec ce que vous venez d'entendre. Hein. pour continuer sur Chine et pour prolonger une recommandation, le magazine Society a édité, je crois en novembre, c'était en novembre, c'est ça, fin novembre 2025, donc un long article sur le lobbying de Chine auprès de l'État français pour ne pas faire passer cette fameuse loi qui est passée. On va y revenir en fin d'émission sur la loi passée, promulguée par l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on revienne sur la qualité technique, c'est aussi dans cet article de Society. Vous en avez parlé, Charles, un peu plus tôt dans l'émission. Est-ce que on vous parlait de la qualité des vêtements. Est-ce que les matières ont changé ? Est-ce que c'est-à-dire que c'est toujours des vêtements en coton, comme on peut trouver partout, mais est-ce que c'est juste du plus mauvais coton, ou est-ce qu'il y a aussi eu un changement dans les matières utilisées pour construire nos vêtements ?
Alors il y a les deux, il y a du plus mauvais coton, c'est-à-dire que vous allez acheter un t-shirt tout coton, il est ultra fin, il passe une fois à la machine à laver,
et puis tout d'un coup il ressort plein de trous.
Mais comment ça se fait, on l'a tous vécu. Les coutures, comme disait Charles tout à l'heure aussi, qui tournent ou qui se défont. Donc évidemment, quand on ne maîtrise pas la couture ou qu'on n'a pas envie, on jette. Et puis il y a aussi tous les textiles avec des fibres mélangées qui sont difficiles à recycler parce que du coup ça demande des techniques très pointues pour dissocier les matières. Des fois il faut de la chimie aussi pour arriver à dissocier et c'est une industrie qui a besoin de se développer en fait pour pouvoir arriver à s'en sortir.
C'est-à-dire que les fabricants ont de l'avance sur les recycleurs, les filières de revalorisation de cette filière.
Je dirais même que ça va jusqu'à les fabricants qui ne se posent pas la question de la fin de vie de leur production.
Ok. Et pour rappel, puisqu'on en est à taper sur Chine, et bon, ils le méritent, on va pas se mentir, 69% des produits vendus sur la plateforme Chine sont, ou Temu, d'ailleurs, je crois que c'est marqué dans l'article de Society, sont considérés comme non conformes sur les exigences de l'Union européenne, et 57% des vêtements vendus sur Chine présentent un risque réel d'intoxication, de brûlure ou d'étouffement, selon une étude parue dans l'UFC Que Choisir. Voilà pour ce qui vous attend si vous consommez trop sur Chine. Voilà, donc 57%, c'est plus d'un vêtement sur deux, messieurs, dames. Donc voilà, soyez vigilants. Mathilde, tu avais d'autres questions ?
Je reviens un petit peu, du coup, par rapport au mouvement des relais de l'été 2025. Est-ce que vous avez vu, du coup, une prise de conscience de la population et aussi des institutions gouvernementales ? Puisque j'ai lu que la filière responsabilité élargie producteur textile linge maison chaussures était en crise, donc c'est la filière qui est raffiliée aux ressourceries et recycleries, étant en train de repenser tout le dispositif en fait, notamment sur les aides financières.
Oui, alors c'est l'éco-organisme ReFashion, en l'occurrence, qui est responsable de ça. Et effectivement, la loi anti-fast fashion dont il est question, qui n'est pas encore tout à fait passée.
Non, on va y revenir,
la question, c'est de rendre les producteurs de plus en plus responsables. Donc, ils évoquent différents sujets, l'augmentation de leur participation pour justement participer de manière plus active au recyclage des fibres complexes. Et puis aussi, une meilleure rémunération de tous ceux qui travaillent autour du textile. Hein. Ça peut être justement les collecteurs, ça peut être les centres de tri, ça peut être une meilleure subvention de ce travail.
Et un meilleur accompagnement des pouvoirs publics. On y revient souvent dans cette émission. Charles.
Oui, je voulais juste ajouter qu'effectivement, la France, en 2020, a voté la loi AGEC, qui permet du coup d'avoir une responsabilité élargie des producteurs. Et donc, à chaque fois que vous achetez un article, alors le textile, dont c'est le sujet aujourd'hui, mais autre, ouais. Vous payez une éco-contribution. Elle sert à financer les produits en fin de vie, pour justement qu'ils soient réemployés, réutilisés ou recyclés. Et en fait, la France a décidé de faire appel à des éco-organismes pour gérer ces éco-contributions. Donc aujourd'hui en France, on a une dizaine un peu d'éco-organismes privés qui du coup doivent gérer ces enveloppes qui sont récoltées à la vente de chaque produit. Sur la filière textile, l'opérateur s'appelle ReFashion, dont parlait Sandrine à l'instant. Et donc ReFashion collecte tout cet argent, donc joue avec des millions et des millions. Et pour l'instant, ReFashion permet aux structures comme les ressourceries d'avoir à peu près 5% de cette enveloppe pour le réemploi. Donc 5%, ça paraît très peu. Hein. Et après, ce qui est beaucoup... qui fait beaucoup polémique en ce moment, c'est que pour l'instant, ils capitalisent beaucoup ces sommes-là, et puis on n'en voit jamais la couleur. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en faisant le choix de donner à des opérateurs privés la gestion de ces fonds-là, les opérateurs privés se sont organisés, ils ont des conseils d'administration, mais qui sont composés essentiellement par les gros metteurs en marché. Donc on retrouve à la tête de ces éco-organismes les principales marques qui ont tout intérêt à ce que le processus se continue. Hein. Donc c'est Kiabi, Decathlon, on parlait tout à l'heure, qui sont à la tête un peu de l'éco-organisme ReFashion. Donc évidemment, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied non plus dans les décisions. Ils ne vont pas donner tout leur argent aux ressourceries pour favoriser le réemploi. Parce que quand on favorise le réemploi, on diminue acheter, les ventes du produit neuf.
Toujours sur un volet juridique, donc Sandrine, vous en parliez à l'instant, et de cette loi donc promulguée en 2025 par l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle est pour l'instant donc largement contestée hein, sur des pans juridiques assez techniques que je ne maîtrise pas, je ne vais pas m'engager là-dedans, par l'Union européenne. On rappelle qu'on est dans un système plus global et que l'Union européenne a ses propres normes qui ne s'appliquent pas ou qui peuvent retoquer des lois promulguées en France. Donc la loi n'est pas prête pour l'instant de voir le jour. Un petit rappel des principaux faits, des principaux projets qu'il y a dans cette loi. Donc l'obligation d'information vers les consommateurs de l'impact environnemental et social de l'achat sur ces plateformes. L'interdiction de la publicité de ces plateformes aussi. Et puis ça, on en a beaucoup parlé, une taxe sur les colis de moins de 4 euros, puisque, comme vous le rappeliez, Charles, aussi, un quart des colis qui arrivent à la poste, qui transitent vers la poste, sont issus de ces sites type Temu ou Shein. Voilà pour ça. On va glisser gentiment vers la fin de l'émission, Mathilde. Est-ce que tu avais encore d'autres questions pour Charles et Sandrine?
Alors moi, j'ai une question qui sort un chouïa du sujet, vu qu'on est à la fin, on va faire une petite ouverture. Ouais, les ressourceries, donc c'est du textile, des vêtements. Il y a aussi une partie objets, décoration, etc. On commence aussi à parler de phase déco. Est-ce que c'est une crainte qu'on passe sur la même lignée de chemin que la surconsommation de vêtements?
Elle n'est pas du tout en dehors du cadre, Mathilde. Très bonne question. Elle déborde, elle le déborde, mais on est encore dans
c'est
le thème.
C'est un prolongement.
C'est un prolongement, tout à fait.
Alors effectivement, nous, on sera aussi submergés d'objets comme on l'a été avec le textile. Hein. On va recevoir tout un tas d'objets qui viennent de cette phase déco qui a déjà commencé très, très largement avec... beaucoup d'enseignes à petit prix, ça va sur la déco, mais ça va aussi sur le mobilier maintenant. On fera comme avec les autres produits, c'est-à-dire que malgré tout, comme le problème, ça vient de la surconsommation, on va pouvoir collecter, remettre en vente beaucoup de choses, et il y a quand même énormément de choses qui vont nous arriver en bon état. Il y aura aussi une grosse proportion de déchets parce qu'il y a des choses qui vont arriver en mauvais état, mais il y a quand même énormément de choses. C'est la phase déco, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est peut-être de mauvaise qualité, mais ça change souvent, donc en fait, ils n'ont même pas le temps de l'user qu'ils en changent.
On va citer ces enseignes aussi hein, pour que les gens en prennent conscience. On parle des enseignes type Action, Jiffy, etc. qui vendent à des prix défiant toute concurrence des objets de décoration et d'ameublement. C'est celle-là.
Oui.
Ouais. Ok. Très bien. Oui, oui, non, bah, effectivement, donc on est sur une même tendance. Elle arrive un peu après, enfin, c'est arrivé en même temps. C'est un phénomène qui est plus récent, la phase d'écho.
Oh, bah oui, c'est plus récent. Je ne sais pas trop dater en nombre d'années, mais c'est quand même assez récent.
Et vous, donc, vous le voyez, là, il y a une vraie différence entre 2025 et 2021, par exemple, sur la déco, il y a eu un basculement.
Oui, c'est un basculement progressif. Alors après, ceci étant dit, il y a aussi des consommateurs qui veulent de plus en plus retrouver de la qualité.
Ouais.
La qualité, des fois, elle est de plus en plus difficile à trouver dans les magasins classiques. Et on a des consommateurs qui viennent en ressourcerie pour retrouver les matériaux de qualité.
Vieux meubles de grand-mère.
Voilà, en bois, mais en bois noble. Voilà. On a aussi des plastiques qui ont été faits dans les années 80 qui sont toujours de bonne qualité, alors que les plastiques ont été faits. Aujourd'hui, il s'abîme très 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 vite. Et voilà, donc la déco un peu vintage est très tendance. Et là, pour le coup, nous, on en a plein aussi. Et on a des produits, paradoxalement, des fois de meilleure qualité de ce qu'on peut trouver en boutique.
Et pas forcément plus cher.
Pas forcément plus cher. Sandrine, vous parliez en début d'émission d'atelier de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez leur rappeler qu'est-ce qu'on trouve quand on vient dans ces ateliers que vous animez ?
Alors, ce qu'on essaye de faire, et c'est une volonté des réseaux, des ressourceries aussi, c'est d'amener la population à prendre conscience, et pour le coup c'est large, ça peut être le textile mais aussi la consommation en général, amener les consommateurs à se poser des questions sur ce qu'ils achètent, à consommer de manière plus responsable, à ne pas surconsommer aussi, donc ça c'est des actions à multiples facettes. Mmh. C'est un travail qu'on peut mener sur la ressourcerie en tenant un atelier de quelques heures. C'est aussi des ateliers qu'on pourrait imaginer exporter en faisant un travail de construction de documents pédagogiques, par exemple, pour aller parler à des lycéens, aller parler à des collégiens, aller dans les écoles.
Mais on l'exporte déjà, on est présent sur la plupart des manifestations en lien avec la transition écologique sur notre territoire, et puis sur les fêtes de quartier et autres. Donc du coup, on met en place des animations. Alors c'est des ateliers où on va faire de l'upcycling. Alors l'upcycling, c'est on va transformer des objets de leur usage premier. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, des cassettes audio qui sont plus utilisées aujourd'hui, qu'on va transformer en pots à crayon. Ça va être des, je sais pas quoi, des disques qui vont servir de plateau à pâtisserie, être transformé de leur usage premier. On va mettre en place aussi des ateliers de réparation vélo et d'auto-réparation vélo pour permettre à des gens d'apprendre aussi à entretenir et réparer eux-mêmes leur vélo. On met en place des ateliers d'initiation à la couture, donc où chacun est amené à venir avec ses vêtements qu'il souhaite réparer ou à venir créer à partir des tissus qu'on a aussi en ressourcerie. Qu'est-ce qu'on a comme atelier ? J'en oublie.
On fait de la transformation de vêtements, on fait de la récupération de vêtements qui sont un peu tachés, on enlève la partie, ou alors on donne des vêtements comme ça qui vont resservir la structure, l'association. Va reprendre la partie qui l'intéresse et puis refaire une pièce nouvelle, pas neuve mais nouvelle, avec quelque chose qui n'était pas voué au réemploi, avec la matière.
On fait aussi des ateliers de réparation de tout ce qui est électrique et électronique. Donc là, on prend le temps, en fait, avec les personnes qui arrivent avec, du coup, leur appareil qui est défectueux. On prend le temps de démonter, de comprendre. Et
un grille-pain, un aspirateur, ce genre de choses.
Voilà. Le grille-pain, en l'occurrence, deux tiers des grille-pains qui nous sont confiés, ils sont réparés assez rapidement. Du coup, les pannes sur un grille-pain, puisqu'il n'y a pas d'électronique ou très peu, c'est assez facile. Et puis, des fois, en fait, c'est intéressant aussi de comprendre comment fonctionne un moteur d'aspirateur, et puis voilà, quels sont les, à force on apprend à reconnaître aussi les pièces qui sont fragiles, et du coup à optimiser aussi le temps passé sur la recherche. Mais les platines disques, souvent c'est la courroie ou le saphir qui peine, on sait un peu bricoler, réparer, et puis l'idée c'est de venir le faire avec nous. C'est pas nous qui réparons pour vous, mais c'est plutôt venez, on met les mains dedans, en toute sécurité évidemment, et on a tout le matériel adapté pour ça, et puis on fait ça dans la convivialité sur des après-midi.
J'en profite, l'anecdote du grille-pain, puisqu'on est allé sur l'électroménager, je me suis retrouvé, puisque mon grille-pain était tombé en panne, je me suis retrouvé à devoir acheter en ligne sur un site type Temu, etc., un tournevis spécifique parce que les vis du grille-pain que j'avais acheté je ne sais où n'étaient pas standard, et donc je voyais bien le mécanisme de l'achat d'un appareil non réparable, en tout cas difficilement réparable, à cause de vis qui n'étaient pas vendues dans le commerce et qui venaient sans doute de loin. Mais mon grille-pain est réparé, je les ai eu à leur propre piège. Voilà pour cette petite anecdote qui montre bien l'absurdité d'un système de surconsommation. Ça restait notre principale ligne de conduite ici. On rappelle donc qu'il y a deux boutiques de la régie de quartier de Vendôme à Vendôme, une en centre-ville et une donc dans votre lieu historique du quartier Courtirat. On peut retrouver évidemment une ressourcerie ici à Blois, et puis la boutique La Friperie des Habits et Moi, qui est une émanation d'un organisme de collecte aussi à Orléans, il me semble.
C'est ça.
Ouais. Voilà, et puis on peut évidemment aussi se vêtir et s'équiper, se meubler dans les secours populaires, Emmaüs et ce genre de choses. Vous faites partie d'un grand réseau structuré de régie de quartier et d'upcycling, de réemploi. Donc merci à vous deux, Sandrine Bernard et Charles Lavarenne, donc de la régie de quartier, d'être venus. Merci Mathilde d'avoir animé cette émission avec moi. C'est la fin de cette émission. Les programmes continuent à 18h. C'est la Roxette avec l'ami Christophe. Bonne fin de journée sur les ondes de Studio ZEF.